Bonjour tout le monde. Salutations chaleureuses dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous continuons dans la série des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le chapitre 3, les 10 premiers versets. Chapitre 3, versets 1 à 10. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône et ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit : Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Amen. Donc, après la Pentecôte, comme on l'a vu dernièrement dans le chapitre 2, le livre des Actes nous montre une église remplie du Saint-Esprit. Une église qui est attachée à la doctrine des apôtres, à la communion fraternelle et à la fraction du pain, et aux prières. Acte 2, les versets 42 à 47, comme on l'a vu la dernière fois, nous a donné une photographie de la vie ordinaire de l'église primitive. Une communauté rachetée par Christ, une communauté qui est enseignée, une communauté qui est unie, une communauté qui est généreuse, une communauté joyeuse et une communauté qui est centrée sur Dieu. Mais ici, en acte 3, Luc nous fait entrer dans une scène assez particulière. Nous ne sommes plus seulement dans la description de l'Église primitive. Nous sommes devant un événement précis, un événement public, un événement visible et un événement spectaculaire. La guérison d'un homme boiteux depuis sa naissance. À première vue, ce texte raconte un miracle. Et c'est bien un miracle. Mais ce passage n'est pas seulement l'histoire d'un homme malade qui retrouve l'usage de ses jambes. C'est une révélation de la puissance de Jésus-Christ ressuscité. C'est une démonstration que Jésus, monté au ciel, continue d'agir par son esprit, au moyen de ses apôtres. C'est une image vivante de la grâce de Dieu. Un homme impuissant, incapable de se relever lui-même, reçoit plus que ce qu'il demande par la puissance du nom de Jésus-Christ. Les miracles apostoliques ne sont jamais de simples actes isolés. Ils sont des signes visibles qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Ils attestent que Jésus crucifié est réellement vivant, exalté et qu'il agit toujours au sein de son peuple. Hébreux 2, les versets 3 à 4, ces passages nous rappellent que Dieu a confirmé le témoignage apostolique par des signes, par des prodiges et divers miracles. Autrement dit, le miracle n'est pas une fin en soi. Le miracle pointe vers Christ. Ce miracle, ici, dans ce chapitre, dans les 10 premiers versets, ce miracle est pour nous une prédication visible. Il annonce que le salut, la restauration, la vie et la louange se trouvent dans le nom de Jésus-Christ seul. Et donc, nous méditerons ce texte en 3 points. Mon premier point, une misère humaine exposée à la porte du temple. Les 2 premiers versets. Une misère humaine exposée à la porte du temple. Et donc, le premier verset commence ainsi. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, nous sommes environ à 3 heures de l'après-midi. Et dans la tradition juive, c'est une heure régulière de prière, une heure où les gens faisaient des sacrifices. Pierre et Jean, bien qu'ils confessent maintenant Jésus comme leur Messie crucifié et ressuscité, continuent de monter au temple. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est exalté. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils continuent d'aller au temple. Non parce que les sacrifices de l'ancienne alliance auraient encore une efficacité expiatoire, mais parce que le temple demeure un lieu de rassemblement, un lieu de prière et un lieu de témoignage. Et les apôtres savent que Christ a accompli ce que le temple annonçait. Jésus avait dit en Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Jean précise qu'il parlait du temple de son corps. Christ est mort et ressuscité le 3e jour. Le temple de Jérusalem était une ombre, mais Christ, lui, il est la réalité. Les sacrifices annonçaient l'offrande parfaite du Fils de Dieu. Ainsi, Pierre et Jean montent au temple, non pour retourner aux ombres, mais pour témoigner de l'accomplissement, pour témoigner de Christ vivant et du Christ qui agit encore au sein de son Église. Ils vont dans un lieu où beaucoup viennent chercher Dieu, mais où plusieurs ne comprennent pas encore que le salut se trouve désormais dans le nom de Jésus-Christ seul. Et au verset 2, Luc introduit l'homme boiteux. Nous lisons, « Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Ici, Luc insiste sur la condition du boiteux. Il est boiteux de naissance. Littéralement, il est boiteux depuis le sein de sa mère. C'est très significatif ici. Ce n'est pas une blessure récente ni une faiblesse temporaire. C'est une incapacité ancienne, profonde, mais surtout humainement irréversible. Un boiteux depuis la naissance. Il naît avec cette condition, humainement parlant, c'est irréversible. Acte 4, verset 22, nous apprendra qu'il avait plus de 40 ans. Donc depuis plus de 40 ans, cet homme n'avait jamais marché. Luc souligne aussi sa dépendance. Il est porté, il est placé. Il ne faisait rien par lui-même. Il ne vient pas au temple par lui-même. Il dépend des autres pour être transporté et il dépend aussi des passants pour survivre. Chaque jour, on le dépose à la porte du temple appelée la Belle. Et ici, le contraste est frappant. D'un côté, une porte magnifique. De l'autre côté, un homme marqué par la faiblesse, la pauvreté et la dépendance à autrui. Il est proche du temple, mais il reste à la porte. Il voit les autres entrer, mais lui demeure dans une posture d'attente et dans une posture de manque. Il est près du lieu de la prière, mais il ne peut pas se tenir debout comme les autres. Il est entouré de gestes religieux, mais son besoin profond demeure intact. Frères et sœurs, cet homme devient pour nous une image saisissante de la condition humaine devant Dieu. La Bible ne décrit pas l'homme pécheur comme quelqu'un qui aurait simplement besoin d'un peu d'aide pour mieux marcher. La Bible décrit le pécheur comme spirituellement impuissant, spirituellement incapable de se relever lui-même. Nous sommes incapables de nous relever nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Et cet homme, pour se relever, est dépendant d'une grâce qui est extérieure à lui. Et cette grâce se trouve en Jésus-Christ seul. Paul dit en Romains 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et voilà notre condition naturelle. Nous étions sans force. Nous étions sans force. Et Éphésiens 2, verset 1 va encore plus loin. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Le péché n'est pas seulement une mauvaise habitude. Le péché est une corruption profonde de notre nature. Cela ne veut pas dire que l'homme est aussi mauvais qu'il pourrait être, ni qu'il peut rien faire dans la société, dans sa famille ou dans son travail. Mais cela veut dire que devant Dieu, l'homme naturel est incapable de produire par lui-même une repentance véritable. C'est ce que résume notre confession de foi, notre 1689, au chapitre 9, paragraphe 3, où nous lisons « L'homme, par sa chute dans le péché, a perdu toute capacité de vouloir un bien spirituel accompagnant le salut. » Il n'est pas capable, par ses propres forces, de se convertir ou de se préparer à la conversion. L'homme, par sa chute dans le péché, a perdu toute capacité de vouloir un bien spirituel accompagnant le salut. Il n'est pas capable, par ses propres forces, et donc il a besoin d'une grâce extérieure à lui. Et c'est en Jésus seul que nous avons cette grâce. Cet homme boiteux n'est donc pas seulement un pauvre homme à aider. Cet homme devient une parabole vivante de notre besoin à nous. Nous sommes tous par nature incapables de marcher dans la justice, incapables d'entrer par nous-mêmes dans la pleine communion avec Dieu. Nous sommes incapables de nous relever par nos propres forces. Ici, il est aussi intéressant de remarquer que cet homme demande l'aumône. Il demande quelque chose de réel et de légitime. Tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin de subvenir à ses besoins. Mais il ne demande pas sa guérison. Il demande quelque chose de temporaire, mais il ne demande pas sa guérison. Peut-être n'ose-t-il même plus l'imaginer qu'il se sortira de sa condition. Cet homme a appris à vivre avec son incapacité. Il ne s'attend même pas à être relevé. Il s'attend seulement à recevoir un peu d'aide pour survivre au jour le jour. N'est-ce pas souvent notre cas ? N'est-ce pas souvent notre cas? Nous demandons parfois à Dieu de petites améliorations, temporaires. De quoi manger demain? De quoi être vêtu aujourd'hui? Mais nous avons du mal à croire qu'il peut transformer profondément nos vies. Nous demandons parfois de quoi supporter notre misère. Mais Christ vient pour nous donner plus que la survie. Il nous donne la vie éternelle. Et donc ce passage nous appelle donc à ne pas nous contenter d'une religion extérieure. La vraie question n'est pas seulement « sommes-nous près du temple ?» La vraie question est « avons-nous été relevés par le Christ ressuscité ?» Avons-nous reçu la vie que seul son nom peut donner? Le péché ne fait pas seulement de nous des hommes qui boitent spirituellement. Il fait de nous des hommes incapables de nous relever sans l'intervention souveraine de Dieu. L'homme regarde Pierre et Jean en espérant recevoir quelque chose. Il espérait recevoir de l'aumône, de l'argent, quelque chose pour subvenir temporairement à ses besoins. Mais la grâce de Dieu va dépasser son attente. Il demande de quoi passer la journée. Christ va lui donner une vie nouvelle. Et c'est l'objet de notre deuxième point, des versets 3 au verset 7. Une grâce souveraine donnée au nom de Jésus-Christ. Des versets 3 au verset 6, nous lisons « Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le verbe traduit par « fixer les yeux » ici exprime une attention qui est soutenue, qui est insistante. Pierre ne passe pas à côté de cette misère comme s'il était invisible. Ça nous arrive de voir des personnes dans la rue qui demandent l'aumône et juste de passer, sans pour autant leur tendre quelque chose, leur dire bonjour. Et dans une foule, dans l'église, dans ce temple, des gens qui entrent, qui sortent. Cet homme aurait pu être ignoré. Mais Pierre s'arrête. Il regarde l'homme. Puis il prononce cette parole célèbre. « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Il attendait à avoir de l'argent. Il attendait à avoir l'aumône. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on lui donne ce qu'il n'espérait même pas avoir. Pierre ne dit pas « Par ma puissance, lève-toi ». Il ne dit pas « Par ma piété, marche ». Il ne dit pas « Parce que je suis apôtre, je peux te guérir ». Il dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Dans la pensée biblique, le nom n'est pas une simple étiquette. Le nom représente la personne, ici c'est la personne de Christ, son autorité, sa puissance, son caractère et surtout sa gloire. Agir au nom de Jésus-Christ, c'est agir sous son autorité, par sa puissance et par sa gloire. Pierre n'utilise pas une formule magique. Il confesse publiquement que Jésus-Christ seul, vivant, c'est lui qui agit. C'est lui qui est puissant. Et le nom Jésus-Christ de Nazareth est riche de sens. Jésus rappelle le Sauveur. Matthieu 1, verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Christ signifie le Messie, loin de Dieu, celui qui accomplit les promesses de Nazareth. Ça nous rappelle l'humiliation. L'humiliation de celui que beaucoup avaient méprisé. Nathanaël avait demandé en Jean 1, 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Nazareth symbolisait l'humiliation. Rien de bon pouvait sortir de Nazareth. Mais c'est loin de Dieu, celui qui était méprisé, celui qui devait nous sauver de nos péchés, qui était venu d'une ville qui était insignifiante. Et pourtant, ce Jésus-là, rejeté par les hommes, et crucifié à Jérusalem, Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a exalté. Voilà ce qui est proclamé dans le miracle que nous voyons. Celui qui fut humilié est maintenant exalté. Celui qui fut crucifié règne pour toujours. Celui que les hommes ont rejeté est celui par qui Dieu relève les impuissants. Pierre refusera d'ailleurs toute gloire personnelle. En acte 3, verset 12, voyant la foule étonnée, il dira « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Il refuse toute gloire. Le miracle ici n'est pas la preuve de la grandeur de Pierre, mais il est la preuve de la magnificence et de la grandeur de Jésus-Christ. En acte 4, des versets 10 au verset 12, Pierre donnera l'interprétation la plus claire du miracle. Cet homme a été guéri par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis il ajoute, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le miracle d'acte 3 est donc une prédication visible. Le nom qui relève les boiteux est le même nom qui sauve les pécheurs. La guérison du corps devient le signe d'une réalité plus grande. Jésus-Christ seul possède l'autorité de restaurer l'homme devant Dieu. Et au verset 7, nous lisons, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent ferme. Ferme. Pierre prend l'homme par la main droite et le fait lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Luc était médecin. Donc, il donne ici un détail qui est précis. Il mentionne les pieds et les chevilles. Ce n'est pas une impression intérieure, ni une simple émotion intérieur, ni une amélioration progressive. C'est une restauration qui est immédiate, qui est visible et qui est complète. C'est pas comme si il marchait plus, il boitillait un peu, mais c'était une guérison qui était complète. L'homme qui n'avait jamais marché se met à marcher. Normalement, un homme qui n'a jamais marché doit apprendre l'équilibre, le mouvement, la coordination. Si vous êtes un peu habitué à regarder le sport, vous allez remarquer que soit les joueurs de foot, soccer, et de basket, lorsqu'ils se blessent, il y a des périodes de rééducation, de coordination, ainsi de suite. Mais ici, ce boiteux, il a eu une guérison qui était complète, qu'on pouvait voir. La puissance de Christ ne répare pas seulement une partie du corps. Elle donne la capacité complète de faire ce qui est impossible. Et c'est une belle image, frères et sœurs, de la grâce souveraine. C'est une belle image. Quand Christ sauve, il ne donne pas seulement un potentiel de vie nouvelle. C'est une vie nouvelle complète qu'il donne. Il ne dit pas simplement au pécheur, essaie de marcher. Il le relève par sa puissance. Et cela illustre l'appel efficace. Quand Dieu appelle un pécheur à venir à Christ, il ne lui donne pas seulement un ordre extérieur. Il accompagne cet appel de la puissance intérieure de son esprit. Comme lorsque Jésus dit à Lazare, « Sors !» Lazare ne pouvait pas obéir par lui-même, puisqu'il était mort. Mais la parole de Christ portait en elle la puissance de donner la vie. Ici aussi, le commandement vient avec la puissance d'accomplir ce qui est commandé. Au nom de Jésus-Christ, marche ! Lève-toi et marche. Cette parole vient avec la puissance de Christ ressuscité. Et cela nous rappelle une vérité fondamentale de l'Évangile. Dieu ne nous sauve pas parce que nous avons commencé à marcher avec lui. Non. Il nous sauve alors que nous sommes incapables de nous relever. La grâce ne vient pas récompenser notre force. Elle vient secourir notre impuissance. Elle vient secourir notre faiblesse. Lorsque nous prions parce que nous savons que nous sommes faibles et que nous sommes impuissants et que nous dépendons par notre prière de la grâce souveraine de Dieu. Cependant, remarquons aussi que Pierre prend l'homme par la main. La grâce de Dieu n'annule pas les moyens humains. Non. Christ agit, mais il a agi ici par un apôtre. La puissance vient de Christ, mais la main tendue est celle de Pierre. Et cela nous enseigne quelque chose sur le ministère de l'Église. L'Église ne possède pas en elle-même la puissance de sauver. Elle ne guérit pas les âmes par sa créativité, ni par son influence sociale, ni par ses ressources financières, ni par ses ressources visibles. Mais elle possède un trésor infiniment plus grand. Le nom de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce, la parole vivante de Dieu. Je n'ai ni or ni argent. Cette parole ne signifie pas que l'Église ne doit pas aider les gens matériellement. Acte 2 nous a justement montré une Église qui était généreuse envers les besoins des saints. Mais Pierre montre ici que le besoin plus profond de l'homme n'est pas comblé par l'argent. L'argent peut aider un boiteux à vivre une journée de plus dans son état. Christ peut le relever. Et il y a là un avertissement pour nous, en tant qu'Église. L'Église peut être tentée de mesurer sa force par ses ressources, par ses bâtiments, par ce qu'elle a. Ces choses peuvent avoir leur utilité. C'est vrai. Mais la vraie richesse de l'Église, c'est Christ. La vraie richesse de l'Église, c'est Christ. Là où Christ est fidèlement annoncé, là où son nom est confessé, là où sa parole est prêchée, là où son esprit agit, l'Église possède ce que le monde ne peut pas donner. Il faut toutefois être clair, ce passage ne nous autorise pas à promettre à tous les malades une guérison immédiate. Non. Les miracles apostoliques avaient un rôle particulier dans l'histoire de la rédemption. Ils confirmaient le témoignage des apôtres et l'inauguration de la nouvelle alliance. Mais ce miracle nous révèle néanmoins qui est Christ. Il est le Seigneur vivant, le Seigneur qui est puissant pour sauver, puissant pour guérir, puissant pour relever, pour restaurer et conduire son peuple dans la louange. La guérison physique du boiteux est un signe de la restauration plus grande que Dieu accomplit en Christ. Elle annonce le royaume où les aveugles verront, où les boiteux marcheront, où les sourds entendront, et où toute larme sera essuyée. Mon troisième point, de verset 8 au verset 10, une vie relevée qui entre dans la louange. Le verset 8 est magnifique. Nous lisons, « D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Ce qu'il a commencé à faire par la suite, c'est impressionnant. Il a commencé à marcher, sauter et à louer son Dieu. Celui qui était porté est maintenant debout. Celui qui était assis à la porte est maintenant dans le temple avec les autres. Celui qui demandait l'aumône offre maintenant la louange. Celui que les autres voyaient comme un mendiant devient un témoin vivant de la puissance de Dieu. Et le texte insiste sur ses mouvements. Il se lève, il marche, il entre, il saute, il loue. Et donc la grâce de Dieu produit une transformation qui est visible. Lorsque Dieu nous relève, les autres le voient. Elle ne laisse pas l'homme dans l'immobilité. Elle le met en mouvement vers Dieu et pour Dieu. Et ce verset fait écho à Ésaïe 35, les versets 5 à 6 que nous avons lus. Mon frère a très bien fait de le mentionner. Où les temps du salut sont annoncés ainsi, les aveugles verront, les sourds entendront, et le boiteux sautera comme un cerf. En acte 3, cette promesse commence à prendre forme, et cette promesse commence à briller. Le boiteux saute. La restauration annoncée par les prophètes se manifeste par la puissance du Christ ressuscité. Et donc le miracle d'acte 3 n'est pas isolé. Les prophètes avaient annoncé que Dieu viendrait sauver, restaurer et consoler son peuple. Jésus a manifesté cette restauration pendant son ministère terrestre. Et maintenant, après sa résurrection et son ascension, il continue d'agir par son esprit, par le moyen de ses apôtres. L'homme guéri entre dans le temple avec Pierre et Jean. Et c'est important ici. Il ne reste pas à la porte. La grâce ne le relève pas pour qu'il continue à vivre isolé. La grâce l'a relevé, mais il n'est pas resté à la porte. Ou il n'est pas parti chez lui. Il est rentré dans le temple. Il s'est mis à louer. Dieu nous sauve. Dieu ne nous sauve pas seulement pour nous retirer de notre misère individuelle. Dieu nous sauve et il nous introduit dans son peuple. Il nous fait entrer dans la communion des saints. Il nous attache à l'Église. Et il nous conduit à l'adoration. Et le salut biblique n'est jamais un individualisme spirituel. Oui, Dieu sauve des personnes. Oui, il sauve des personnes. Chacun croit personnellement en Christ. Mais ce que Christ sauve, il les incorpore à son Église, à son corps. En Actes 2, 47, nous avons vu que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'homme guéri ne va pas simplement vivre sa vie dans son coin. Il entre avec les apôtres. Il marche avec eux. Il marche avec les apôtres. Il loue Dieu publiquement. Voilà ce que fait la grâce. Elle relève, elle rassemble, elle introduit dans la louange. Et remarquons aussi que l'homme ne glorifie pas Pierre. Il ne donne pas la gloire à Pierre. Il ne glorifie pas Jean, mais il loue Dieu. Voilà le fruit normal de la grâce. La gloire retourne à Dieu. Quand Dieu relève un pécheur, la finalité n'est pas seulement le bien-être personnel. La finalité ultime, c'est la gloire de Dieu. Le salut nous restaure pour que nous adorions. Dieu nous relève pour que nous marchions devant lui dans la joie, dans la repentance, dans l'obéissance et dans la reconnaissance. Éphésiens 2, verset 10 dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Autrement dit, nous ne sommes pas sauvés par notre propre marche, mais nous sommes sauvés pour marcher. Nous ne marchons pas afin d'être relevés, nous marchons pour que Christ, parce que Christ nous a relevés. Et cela correspond parfaitement à cet homme-là qui était guéri. Sa marche ne cause pas sa guérison. Sa marche manifeste sa guérison. De même, notre obéissance ne cause pas notre salut. Elle manifeste que Christ nous a relevés. La marche nouvelle du croyant ne mérite pas la grâce. Elle manifeste la grâce. La foule le voit marcher et le voit louer. Elle reconnaît que c'était bien l'homme assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Les gens sont remplis d'étonnement et de surprise. Et donc, le miracle devient un témoignage public. La transformation visible de cet homme force les témoins à s'interroger. Que s'est-il passé? Quelle puissance a fait cela? C'est ainsi que la vie transformée d'un croyant rend témoignage à Dieu. Bien sûr, aucune conversion n'est identique à cette guérison physique. Mais ici, on voit bien une analogie. Quand Dieu relève un pécheur, quand il donne la repentance, quand il donne la foi, il donne la persévérance, la louange, cela devient un signe visible de la grâce de Dieu. La vie chrétienne est donc une proclamation. Non seulement par nos paroles, mais aussi par notre marche. Pas seulement ce qui sort de notre bouche, mais notre marche témoigne du Christ vivant et ressuscité. Jésus dit en Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Une vie relevée devient une vie qui annonce la gloire de celui qui l'a relevée. Nous devons donc nous poser une question. Nous devons donc nous poser cette question. Notre vie relevée conduit-elle les autres à voir la gloire de Dieu? Est-ce que notre vie emmène les autres ou conduit les autres à voir la gloire de Dieu? Notre marche nouvelle témoigne-t-elle de la puissance de Christ? Sommes-nous encore assis à la porte, satisfaits de quelques secours temporaires? Ou sommes-nous entrés dans la louange vivante du Dieu qui sauve? Il ne faut pas imaginer que la vie chrétienne est une vie sans faiblesse. Le chrétien continue de lutter contre le péché, contre les tentations et contre ses souffrances. La sanctification n'efface pas immédiatement toute faiblesse. Mais il y a une réalité nouvelle. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous avons été relevés par Christ. Nous avons reçu une vie nouvelle. Nous pouvons marcher dans l'obéissance, non par nos forces, mais par la grâce de Dieu. Colossiens 2, verset 6 nous dit: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » La marche chrétienne découle de l'union avec Christ. La grâce qui justifie est aussi une grâce qui transforme. Elle nous met debout, elle nous apprend à marcher. Elle nous conduit dans une vie de louange et d'adoration. Enfin, la foule est bouleversée. Et cela prépare la prédication de Pierre dans les versets suivants. Le miracle ouvre ici une porte pour annoncer l'évangile. Un peu comme à la Pentecôte, où ils ont parlé en langue. Il s'en est suivi la prédication de Pierre. Mais comme ici, après ce miracle, s'en suivra la prédication de Pierre. La guérison pose une question, mais la prédication donne la réponse. Et cette réponse est Jésus-Christ. Quelques applications pour nous. Premièrement, reconnaissant notre impuissance devant notre Dieu, reconnaissant notre misère devant notre Seigneur, reconnaissant notre état de pécheur, humilions-nous devant notre Dieu. Cet homme boiteux, depuis sa naissance, nous rappelle que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Le péché nous a rendus incapables de marcher vers Dieu par nos propres forces. Nous avons besoin d'une grâce qui ne se contente pas de nous conseiller, mais qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous fait marcher, qui nous fait avancer avec notre Dieu. Deuxièmement, ne réduisons pas Christ à nos attentes limitées. Le boiteux demandait l'aumône. Christ lui donne la marche. Il demandait de quoi survivre. Christ lui donne une vie nouvelle. Nous demandons parfois seulement un soulagement temporaire, alors que Dieu veut nous conduire plus profondément dans la foi, dans la repentance, dans la reconnaissance, dans la sainteté et surtout dans la louange. Troisièmement, retrouvons la vraie richesse de l'Église. La vraie richesse de l'Église. Pierre dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Notre espérance n'est pas dans la puissance financière de notre Église, non. Ou dans notre association d'église, non. Notre trésor est le nom de Jésus-Christ seul. Le cœur du ministère, c'est Christ annoncé, Christ offert, Christ exalté, Christ appliqué aux âmes par le Saint-Esprit. Quatrièmement, marchons comme des personnes relevées. L'homme guéri ne reste pas assis il marche, il rentre, il saute, il loue. Et donc si Christ nous a relevés, marchons dans la reconnaissance, marchons dans l'obéissance, marchons dans la communion, marchons dans la joie et rendons gloire à notre Seigneur. Enfin, que nos vies deviennent un témoignage public. La foule reconnaît l'homme, elle sait ce qu'il était. Elle voit ce qu'il est devenu. De même, nos vies doivent témoigner de l'œuvre de Christ. Non par une perfection artificielle, mais par une transformation qui est réelle. Une repentance sincère, une foi qui persévère dans les épreuves. Un amour croissant et une joie en Dieu et une fidélité dans les épreuves, parce que les épreuves, nous allons en avoir. Pour finir, Acte 3, versets 1 à 10, n'est pas simplement l'histoire d'un miracle ancien. C'est une fenêtre ouverte sur la gloire du Christ ressuscité. Le Christ qui a été crucifié est vivant, le Christ qui est monté au ciel agit encore. Il est au ciel et il gouverne toutes choses dans sa sagesse parfaite et infinie. Le Christ qui a envoyé son esprit relève les impuissants. Il donne plus que le monde, il donne la vie, il donne la restauration. Il donne la marche et la louange. Cet homme était boiteux depuis sa naissance, donc depuis le sein de sa mère. Il était porté par d'autres, il était placé à la porte. Il demandait de quoi passer la journée. Mais Christ l'a relevé et le voilà debout, marchant, sautant, louant Dieu. Il rentre dans le temple avec les apôtres. Voilà ce que fait la grâce de Dieu. Elle nous trouve dans notre incapacité. Elle nous trouve dans notre infirmité. Et elle nous relève par la puissance de Christ. Et elle nous conduit dans l'adoration. Elle fait de notre vie un témoignage. Le monde peut nous offrir une offrande ou une aumône temporaire. La religion extérieure peut nous laisser à la porte aussi. Nos propres forces ne peuvent pas nous faire marcher devant Dieu. Mais le nom de Jésus-Christ relève les pécheurs, restaure les brebis et conduit les rachetés dans la louange. Frères et sœurs, que notre Église ne cesse jamais de proclamer ce nom, le nom de Jésus-Christ. Que notre Église ne cesse jamais de proclamer ce nom. Que nos cœurs ne cessent jamais de dépendre de ce nom. De dépendre du nom de Jésus-Christ. Que nos vies ne cessent jamais, jamais de louer Dieu pour ce nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, éternelle, pour ta parole vivante, pour cette parole puissante. Merci de nous avoir montré cet homme boiteux relevé, mais relevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous reconnaissons, éternel, que par nature nous sommes incapables de marcher vers toi par notre propre force. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de notre Sauveur, notre Roi des Rois. Par ton Saint-Esprit, éternel notre Dieu, applique cette parole à nos cœurs. Relève ceux qui sont découragés. Fortifie ceux qui sont faibles. Et ramène à toi ceux qui sont égarés. Donne-nous une foi renouvelée, éternel notre Dieu. Donne-nous une repentance sincère. Donne-nous, Seigneur, une joie qui est fidèle, une joie qui est profonde pour toi, pour ton Église. Afin que nos vies puissent te rendre témoignage, te rendre toute la gloire et toute l'honneur qui t'est dû, éternel notre Dieu. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton œuvre dans la vie de ton Église. Merci pour Christ. Et c'est en son nom, Seigneur, que nous te prions. Amen.